avance très bien.
Bon, aujourd'hui, une émission dans laquelle Séraph a ramené tout un tas de magazines Science et Vie.
Ouais, on va faire la promo un peu de Science et Vie.
Un documentaire proposé par Séraph. Allez, c'est parti, Boris.
On en voit.
Allez.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Radio Primitive.
C'est bon, vous l'aurez voulu. Après, ne venez pas pleurer.
Bonjour, bienvenue dans Radiocratie. On est le lundi 5 février 2018, il est 18h et on est en direct depuis le studio. Vous écoutez Radiocratie comme tous les lundis à 18h sur Radio Primitive, fréquence 92.4 à Reims et via radioprimitive.fr partout ailleurs. Aujourd'hui, l'émission numéro 104 de Radiocratie, déjà. Je vous rappelle rapidement que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle tout simplement Radiocratie. Vous pouvez écouter les podcasts de l'émission et nous envoyer un petit mail si vous le souhaitez. Nos podcasts sont également disponibles sur notre chaîne Dailymotion qui s'appelle également Radiocratie. Et le mail, c'est radiocratie@gmail.com. Le 5 février, c'est en 62 de notre ère, un tremblement de terre qui détruit la ville de Pompéi. La création en 1885 de l'État du Congo, possession personnelle du roi Léopold II de Belgique. C'est aussi en 1917 que le Mexique devient une république fédérale de 28 États. C'est aussi le 5 février 1969 que Yasser Arafat est élu à la tête de l'Organisation de Libération de la Palestine. Au rayon des naissances du 5 février, il y a la naissance d'André Citroën en 1878, en 1946 de l'actrice Charlotte Rampling, en 1952 de Daniel Balavoine et du footballeur Cristiano Ronaldo en 1985. Pour les décès, les 5 février, j'ai pas trouvé de décès notable. Radiocratie, c'est une semaine sur deux des débats, discussions chroniques, etc. Une semaine sur deux de la musique et aujourd'hui une émission pendant laquelle on va parler des robots et de l'intelligence artificielle. Et puis il y aura le blind test en fin d'émission. Et ce soir, ils vont accompagner vos oreilles jusque 19h. Ils viennent de s'installer autour de la table. Voici mes ozos. Tout d'abord, le meilleur d'entre nous. Il gère la régie d'une main de maître pour la réalisation derrière la vitre de la régie. Voici notre Boris National.
Bonjour à tous.
Quand elle a deux chaussettes pareilles, c'est un exploit et ça veut dire qu'elle va mal. D'ailleurs, il y a 15 jours, on a franchi un cap ensemble parce que j'ai touché une de ses chaussettes. Hein. Voici Zoé.
Bonsoir.
On se demande toujours pourquoi en fin de soirée, il y a toujours un con pour finir la canette de bière qui a servi de cendrier. Ce con, c'est lui. Voici Simon.
Eh oui, c'est moi.
Il est l'initiateur de cette émission sur les robots, philosophe dans l'âme. Il aime prendre le contre-pied et se faire l'avocat du diable, jardinier dans l'âme. Il aime donc cultiver les fleurs de rhétorique. Voici mon ami Séraph.
Bonsoir à tous.
Et elle revient de Barcelone. Quand on voit le temps ici, il y en a qui ont de la chance. Voici Célia.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, donc, une émission dans laquelle on va parler de l'intelligence artificielle et des robots. Donc, on va commencer par les robots. Alors, la question que je voudrais vous poser déjà, pour commencer, c'est est-ce qu'on veut se passer aujourd'hui des robots? Tous, Séraph
Alors, je vais peut-être pas commencer là-dessus. Je vais laisser des collègues s'exprimer.
Ah bah alors, Boris, alors, vas-y.
Oui, on peut se passer des robots, on peut laisser le portable à la maison, on peut choisir de ne pas prendre de frigo, de ne pas utiliser de micro-ondes. Mais par contre, qu'est-ce que c'est dur, parce qu'ils sont là, pourquoi on devrait se passer de s'en servir?
Les autres?
Le robot, il fait que faciliter. Tu regardes l'aspirateur, le balai, il faisait déjà à peu près la même chose. Le robot, il facilite, mais il n'est pas nécessaire.
Donc... personnellement, je ne suis pas... Ça dépend pourquoi, je suis pas totalement d'accord, parce qu'avec les petites recherches, j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur des types de robots qui peuvent être vachement utiles pour, enfin, en médecine par exemple, qui peuvent permettre des progrès. Enfin, les nanorobots, enfin les nanites, j'ai vu que ça pourrait permettre des progrès quand même monstrueux en médecine, dans le traitement par exemple du cancer, etc. Et je pense que du coup, on peut s'en passer sur une certaine échelle, mais il y a d'autres avancées technologiques au niveau robot qui sont vachement nécessaires quand même.
Les nanorobots, pour rappeler, c'est des minuscules robots pour, qui servent à opérer à distance, par exemple.
Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Ou bien, j'ai regardé, c'est dans pas mal de domaines, dans ce qui est produits chimiques, pour savoir ce qui est toxique pour l'environnement, ou les interactions précises avec des objets microscopiques, donc ça serait du pack à la médecine, mais du coup ça peut être vachement intéressant aussi de les utiliser.
Récemment, il y a une personne qui s'est fait opérer, ils lui ont implanté un petit robot sur la rétine relié à des neurotransmetteurs et qui lui permet de distinguer des formes et un peu de couleurs. Et donc du coup, ce petit robot-là fait le lien entre son œil et son cerveau et apparemment c'est à lui d'éduquer et... pour interpréter au fur et à mesure de mieux en mieux les formes qu'il perçoit. Donc ça, c'est quand même dingue, je trouve, et ça peut être sympa.
C'est fou. Ouais. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, effectivement. Donc, comme disait Boris, hein, si on suit la pyramide de Maslow, on peut très bien se passer des robots. Je veux dire, ils interviennent nulle part dans les différents
étages. Expliquer la pyramide de Maslow.
Pardon, la pyramide de Maslow. C'est la pyramide. Ouais, c'est la pyramide des besoins hiérarchisée en fait par. Alors, j'ai plus en tête toutes les étapes. Je crois qu'il y en a cinq ou six.
Cinq ou six, oui. C'est une pyramide qu'on apprend notamment quand on fait des études dans le commerce.
Ouais. Et en fait, qui est applicable à tous les jours. Hein, au plus bas, on trouve les besoins physiologiques, etc. Et ensuite, plus on monte dans la pyramide, et plus on arrive sur des choses qui font partie de l'individu, plus que du physiologique ou du naturel. Et en fait, le robot lui-même n'intervient pas vraiment dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'on reste d'abord des êtres biologiques, donc des animaux. Donc, on peut se passer des robots, effectivement, mais pourquoi s'en passer, puisque c'est si utile? La question, en fait, elle est plus d'ordre moral. C'est-à-dire que, pour citer Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur le fondement et l'inégalité parmi les hommes, en fait, Jean-Jacques Rousseau, donc, signale que l'homme, en commençant à utiliser les outils, s'est éloigné de l'état de nature, et de ce fait, en fait, s'est amolli, affaibli, là où nos ancêtres étaient eux-mêmes bien plus, physiquement, fait pour surmonter les difficultés de la nature. L'outil a permis de surmonter plus facilement ces difficultés, et donc le corps en lui-même s'est affadi. Ouais. Et le robot n'est qu'une version améliorée des outils de l'époque. Hein. C'est un marteau, mais high-tech, quoi, en fait, ouais. Si on veut. Il permet de réduire la dépense énergétique, mais du coup, le corps, lui, n'a plus besoin d'être... La question morale, c'est peut-on se passer des robots en sachant que ça nous affaiblit finalement et qu'on donne notre force aux robots.
Célia, tu veux intervenir là-dessus?
Parce que faut penser à est-ce qu'on peut s'en passer maintenant et dans le futur, vu comment ça évolue, enfin comment justement quelle tournure ça va prendre. Rousseau, il introduit aussi une idée par rapport à la notion de bonheur, où il dit qu'à partir du moment où on a besoin des autres, enfin que l'homme en gros était heureux tant que il pouvait lui-même subvenir à ses premiers besoins, c'est-à-dire faire lui-même sa petite barque pour aller pêcher son poisson, tout ça, et à partir du moment où il a besoin du recours d'un groupe, enfin ça crée des dépendances. Après il y a le mercantilisme, tout ça. Et moi, ce qui me pose un peu question, c'est que je trouve pas ça, si on pense logique basique, je trouve pas ça très logique. Une petite élite dépense de l'énergie pour des technologies qui ont pour but de faire à notre place, et ce qui nous laisse beaucoup de temps à nous pour notre sport favori qui est le consumérisme. Quel truc on va pouvoir acheter, alors que finalement on sait que moins on fait, enfin le cerveau il est assez pragmatique, hein, plus s'il y a des choses que tu sollicites plus, il va couper les connexions, et en fin de compte on régresse sur plein d'aspects, alors qu'on pourrait dépenser cette énergie là pour évoluer, ouais, d'une autre manière, enfin nous pas.
Voilà. Bien sûr, mais justement, ce que vous dites, Séraph et Célia, moi, ça me fait penser, par exemple, tout ce qui est prothèses mécaniques qui permettraient d'avoir des compétences vraiment accrues dans plein de domaines, la médecine, on en parlait, le travail, même au niveau de l'État, dans le domaine militaire. Est-ce que ça pose des soucis d'ordre moral? C'est un petit peu là, vous avez un peu effleuré cette question-là, je trouve, tous les deux, Boris et Simon.
Ça pose un problème d'ordre moral pour si tu améliores le corps, si ça améliore la mémoire, etc. Mais c'est surtout c'est aussi une question économique, c'est-à-dire que de toute manière, qui pourra se le payer? Et si on crée des surhumains et des humains, bah l'armée, oui. Puis ensuite, t'auras les superpuissantes type les mecs de Google, etc. qui pourront s'amuser.
Tu veux
à
dire
se
que ça peut amplifier les différences de classe, par exemple?
Voilà, je veux dire, aujourd'hui, rien que pour l'emploi, si un employé, enfin un recruteur doit recruter un mec qui a une mémoire parfaite, qui est réglé comme une montre, etc., ou un quidam moyen comme moi, qui n'a même pas le permis, le mec aura vite fait son choix. Donc si jamais ça se développait vraiment en société, ça créerait des classes encore plus visibles et qui seraient carrément bioniques.
Parallèlement, t'as des robots justement, enfin des robots, des prothèses mécaniques qui permettent de soulager le travail forcé, enfin l'effort de travail, de soulever des charges lourdes, etc., et qui permettent une meilleure condition de vie pour les travailleurs.
Il y a aussi des bracelets électroniques qui commencent à être commercialisés, qui calculent le temps de mouvement de tes poignets. Oui. Donc si t'as le malheur,
tu penses à la tentative d'esclavage d'Amazon.
Ouais.
Tu peux préciser.
En fait, Amazon ont créé des bracelets qui sont censés vibrer et guider le salarié, mais ça calcule aussi son temps de travail, etc. Et c'est lié à des pratiques. Si c'est lié aux pratiques managériales d'Amazon qui sont sur le management de la terreur, on s'approche très très près de l'esclavage.
Le seul souci avec ces évolutions là, c'est que je pense que ça laisse libre cours à des dérives possibles qui sont infinies, en sachant que je pense que la législation avance plus lentement que
bien sûr. Oui, parce que c'est
que la science et les technologies.
Donc. C'est quand même pas un secret que les conditions de travail chez Amazon sont très moyennes.
Bon, je pense que ça pose aussi un autre souci moral, c'est-à-dire que les prothèses, elles existent depuis moins de 910 avant Jésus-Christ. On les a connues. Il y en a une qui est en très bon état, qui est conservée au Caire, qui est une prothèse de doigt de pied, je crois. Et en fait, le but de la prothèse, c'est de compenser la perte d'un membre ou d'un handicap. Le souci, c'est qu'avec les prothèses mécaniques, on arrive à l'inverse, c'est-à-dire que la personne qui est dite entre parenthèses handicapée devient plus performante que la personne dite entre guillemets valide. Mmh. Donc en fait, on a une inversion totale des normes et ça va chambouler toute la hiérarchie de la société.
D'accord. Alors après, ce que je voulais aussi vous demander, au niveau de la médecine, on fait quand même des progrès énormes. J'entendais quand même que il y a pas très très longtemps que les enfants qui sont nés après 2000 pourront vivre 150 ans. Que les enfants qui naissent là maintenant, d'ici 2020-25, pourront vivre 1000 ans. Ce qui est quand même absolument hallucinant. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ce qui est assez rigolo, parce que dans le domaine du cinéma et de la science-fiction en ce moment, on a pas mal d'histoires qui parlent de la surpopulation à venir et des problèmes que ça engendre.
Et ça parle aussi quand on regarde Trépalium ou Le Soleil Vert. T'as toujours cette idée qu'il y a 30% de gens qui auront accès à tout ça et 70% de gens qui n'y auront pas accès de toute manière.
Alors qu'est-ce que c'est Trépalium? Qu'est-ce que c'est Le Soleil Vert?
Alors Trépalium, c'est une série d'Arte qui avait essayé de parler du travail et surtout du manque de travail et de dire qu'il y aurait une segmentation de la société entre 30% d'élite qui auraient les capacités de travailler, qui auraient vraiment encore du job et donc du coup qui seraient dans un circuit confortable, même si c'est quand même mis en relief, et à côté 70% de personnes qui sont complètement abandonnées. Qu'est-ce qui...
Non, on a eu un bordel.
C'est le ventre de Zoé qui veut participer.
C'est à peu près ça. Et voilà, 70% de gens qui crèvent la dalle et dont on se fiche. C'était déjà l'idée de ce Soleil Vert. Voilà, toujours l'idée de surpopulation, de fragmentation de la population à cause de la technologie. Et donc, du coup, du manque d'emploi parce que la technologie a pris le pas sur pas mal d'emplois. Et donc du coup, c'est pas tout rose.
À l'inverse, si je peux me permettre, dans Wall-E, l'inverse, où c'est la technologie qui s'occupe de tout. C'est un film de
Disney.
Pixar.
D'accord. Disney. Super, ouais. De Pixar.
Ouais, Pixar. On retrouve les humains qui sont échappés de la Terre dans un superbe vaisseau et la technologie s'occupe de tout et les humains n'ont plus besoin de travailler, ils n'ont plus besoin de rien faire. Alors bon, ils sont tous gros, ils sont tous bêtes, etc. Et là, c'est le souci de si on laisse faire la technologie, finalement, on en vient même à douter, de la raison de la présence de l'homme sur Terre. Quoi. On devient absurde finalement. Ça devient absurde de vivre si les robots font tout.
Et ça me fait aussi penser à un épisode d'une série qui s'appelle Black Mirror. Et moi, qui suis pas trop série, j'ai quand même regardé parce qu'il y en a pas mal, notamment ici Boris, Séraph, qui m'en ont parlé, donc j'ai regardé quelques-uns, et notamment un qui m'avait... Alors en plus, c'est bien parce que chaque histoire est indépendante, on peut regarder dans le désordre et tout. Et il y a un épisode qui m'a énormément marqué, où en fait, les hommes ne travaillent plus, un peu comme ce que tu disais, parce que les robots font tout. Par contre, ils doivent tous les jours, c'est leur le temps de travail, en fait, aller pédaler sur des vélos électriques pour produire l'énergie, pour que les robots puissent faire tout à leur place. Et sauf une élite qui ne travaille pas parce qu'ils ont la chance d'être une élite, par exemple, notamment dans le monde des médias, parce que les médias sont surreprésentés forcément dans un monde comme ça. Et il y a une nana qui arrive à participer à un concours de chant genre The Voice, et vu qu'il y a trop de chanteurs, il lui propose de faire du porno. C'est ça où travailler toute sa vie. Et finalement, elle en vient... Enfin, c'est complètement déroutant.
C'est vrai que c'est super cynique.
C'est horrible.
Ils sont tous emprisonnés aussi avec l'écran, l'idée de l'écran, ils vivent dans des pièces où ils ont beau être dans des prisons, il leur est simulé des univers tellement beaux, qu'ils se satisfont.
Oui,
merci. Un jour, un robot me corrigera en temps réel.
Personne n'a dit satisfasse.
Mais ils se satisfont totalement de leur situation, et c'est aussi ça d'être asservi, comme dans Wall-E, où les gens sont tellement servis. On parlait de biais cognitif tout à l'heure, ils n'ont plus besoin de réfléchir, ils sont portés, ils ont des jeux et du pain.
C'est joliment dit ça, ils sont tellement servis qu'ils sont asservis.
Voilà, bah, c'est
très
voilà, ça sera mon épitaphe.
Oh, on a des poètes dans cette émission. Une dernière question sur les robots. Une question qui m'a été pondue par Séraph quand on a préparé cette émission. Robots contre les animaux, qu'est-ce qui a le plus de droits finalement ?
Je savais même pas que les robots avaient des droits. Ça évolue ou
y a... Alors il y a des droits forcément pour les robots, puisqu'il y a des droits pour tout. Enfin, il y a plein de vides juridiques bien sûr, mais il y a quand même des droits pour les robots. Et les robots sont considérés pour le moment encore en tant qu'objets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas plus de valeur juridique qu'un stylo.
C'était pas aussi le cas pour les animaux, justement, animaux domestiques comme...
Eh ben, justement, pour les animaux, ça a évolué il y a peu avec la reconnaissance de l'animal comme personne non humaine. Et donc, les droits des animaux ont évolué. Et je pense pouvoir dire, sans trop me tromper, que l'évolution du droit des animaux augmente justement parallèlement au fait que les robots prennent plus de place dans notre vie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les animaux ont représenté l'altérité de l'humanité. Ce dont on a voulu se séparer, en fait. En s'arrachant à la nature, on a voulu se séparer des animaux. Et maintenant qu'on commence à voir de plus en plus des robots, à se poser des questions sur est-ce que les robots peuvent rêver ? Est-ce que les robots ont des droits ? Finalement, ils nous ressemblent aussi. J'ai l'impression de voir naître un peu plus un sentiment d'appartenance au biologique, au vivant et aux animaux, et même aux plantes, qui finalement, bon, alors pour les animaux en tout cas, qui finalement sont plus reconnus par nous en tant que proches de nous.
Tu veux dire que le monde est forcément un peu duel et qu'il nous faut une force d'opposition et qu'on la trouve dans... Ça évolue, c'est ça qui évolue.
Pas forcément duel, mais en tout cas, on peut pas prendre de recul par rapport... Enfin, on pouvait pas trop prendre de recul par rapport aux animaux avant d'avoir quelque chose d'autre qui vient. Mmh. Alors, on avait le végétal, mais...
J'ai l'impression aussi que les robots ont peu à peu remplacé les animaux. Parce que avant, quand on avait les animaux, c'était pas pour les aimer, c'était parce que c'était utile. Le fermier qui avait un chien, c'était pas pour aimer le chien il dormait dehors, c'était parce que c'était utile pour...
Et pour la compagnie aussi, maintenant on a les tablettes.
Pour guider pour guider les troupeaux, tout ça. Donc les animaux, ils étaient pas là pour qu'on les aime, c'était pour les manger ou pour l'utilité. Aujourd'hui, les animaux domestiques, on a des chats, des chiens, machin. C'est parce qu'il y a un côté affectif qui n'existait pas avant, et parce que l'utilité des animaux a été remplacée par les robots, quoi. Je pense.
Entre autres.
Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Ouais, pas que ça, mais je
sais pas. C'était un truc qui m'intéressait beaucoup par rapport aux chevaux, surtout. C'est-à-dire qu'avec l'industrialisation, les chevaux étaient plus utiles dans les champs ni pour le déplacement, etc. Et c'est là qu'on a vu l'explosion des boucheries chevalines. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'animal n'est plus utile, il faut quand même qu'il soit rentable. Est-ce qu'on peut pas comparer ça aussi, justement, si on part du principe que la technologie va remplacer nos bons travailleurs, que va-t-on faire de toute cette masse de gens qui n'auront plus d'emploi
et qui surpeuplent la planète ?
Va les manger.
Et comment on va faire en sorte qu'ils puissent continuer à consommer, surtout ?
Donc, Boris, tu voulais intervenir ?
Oui, je voulais dire que actuellement les animaux ont beaucoup plus de droits que les robots. Par contre, si et seulement si les robots et les intelligences artificielles deviennent une forme de vie, ce droit va évoluer. Par contre, comment ? Je sais pas. Les auteurs de SF en ont beaucoup parlé. Je pense Le cycle des robots d'Asimov, ou alors le magnifique film de Neil Blomkamp, Chappie, qui parle justement d'un robot qui accède à la conscience et qui essaye de trouver son...
Dans le même style, il y avait iRobot aussi, avec Will Smith, qui avait été adapté librement d'Asimov aussi.
Ouais, bah c'est Asimov, tu l'as dit. Oui,
voilà.
Ou l'Odyssée de l'espace.
Eh bien, merci. On va passer à la suite. On va passer à la suite. Le Soyons Cruels, et cette fois, c'est moi qui m'y colle. Eh bien, messieurs, dames, ce soir, on va parler de sport. Non, je déconne. Mais je trouve que le sport est quand même souvent une bien bonne excuse pour parler d'autre chose. Et ça tombe bien parce que vendredi prochain, le 6 février, débute à Pyeongchang, j'arrive du mal à le prononcer, en Corée du Sud, les Jeux Olympiques d'hiver. Alors la particularité de ces JO, c'est que la Corée du Nord envoie des athlètes en Corée du Sud. Alors vous allez me dire, c'est cool, ça rapproche les peuples. Les gens préfèrent voir des gens s'affronter sur une piste de ski plutôt qu'avec des barbelés et des militaires armés jusqu'aux dents surveillant la frontière. Des fois qu'elle se casse la frontière, c'est sûr. Mais Donald Trump est furieux. Je crois d'ailleurs savoir qu'il prépare un tweet dans lequel il demande à Kim Jong-un de participer à ces Jeux Olympiques dans lesquels il ferait preuve de la meilleure coupe de cheveux. Il faut reconnaître que là, les deux seront en finale, ce qui est vraiment moitié. Le danger, c'est que si Donald Trump gagne, parce que là, le dictateur nord-coréen serait foutu de bombarder direct les Jeux Olympiques et ça risquerait de foutre vraiment le bordel dans le monde. Après, si c'est le nord-coréen qui gagne, Trump risque d'interdire toutes les ventes de Tintin au Tibet, aux États-Unis, parce que pour lui, l'Asie, c'est un pays. Venir bombarder les salons de coiffure J'éblouis David en France, c'est moyen que Franck provoque, approuve, jeu de mots bien pourri. Ah, les Jeux Olympiques, et puis on peut être fiers de nous, les Français, parce qu'on les a eus, les JO. Paris 2024, JO d'été, ça fait rêver, la grande fête du sport. Plus haut, plus grand, plus fort, la devise. Et la jolie phrase de Coubertin, l'important c'est de participer. Ouais, enfin bon, quand t'es américain, que tu t'appelles Justin Gatlin, que t'es blindé aux hormones et que tu gagnes en finale du 100 mètres, c'est pas la même chanson que le balayeur de curling qui vient du Timor-Oriental, qui est venu à la nage presque et qui se dit que s'il gagne pas la médaille d'or, il sera exécuté en rentrant chez lui, mais il se dit aussi qu'il n'a aucune chance de lui emporter la médaille d'or. C'est pas grave, il représente son pays, c'est ça le plus important, c'est la beauté du sport. Et puis quelle belle récompense d'avoir 30 secondes de résumé de son match commenté par Patrick Montel. Avec un peu de chance, il serait interviewé par Nelson Montfort. C'est ça la beauté du sport. On oublie tout. On oublie les dictatures. Vive le sport. Regardez la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud en 2010. On n'a toujours aucune nouvelle de l'équipe de Corée du Nord parce que ces connards n'ont pas pu se sortir de leur groupe pour atteindre les huitièmes de finale. Un groupe où il y avait le Brésil quand même. Puis les Nord-Coréens, c'est pas les meilleurs footballeurs du monde. Toujours aucune nouvelle. On sait pas où ils sont, ces Nord-Coréens qui ont échoué. Mais c'est pas grave, ils ont représenté leur pays. C'est ça, la beauté du sport. Les Français qui ont refusé de descendre du bus, c'était quand même vachement plus important que le sort de ces footballeurs nord-coréens. Merde. Et puis, il y a des sports géniaux. Prenez la boxe, par exemple. Génial, un sport noble, paraît-il. Les mecs, ils se foutent sur la gueule comme pas permis. Si deux gamins font ça dans la cour des récré, tu les pourris jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais la boxe, c'est noble, il paraît. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi en arriver là, alors qu'ils pourraient discuter, trouver un terrain d'entente, plutôt que se taper dessus à tout bout de temps, à tout bout de champ. Il y a le 50 km marche aussi qui est mythique. Tu vois les mecs qui se dandinent et tu te demandes comment ils font pour pas se déboîter le bassin. Tu les vois marcher et on se demande pourquoi ils ont choisi ça comme sport. C'est quand même plus facile de courir pour gagner, merde. T'as envie de lui dire de courir d'ailleurs au gars. Non, non, ils ont choisi de marcher. C'est ça la beauté du sport. Alors qu'entre nous, même en Clio, en Twingo, même 50 km, une grosse demi-heure, c'est fait. Hein. Et le curling, tenez, j'en parlais, c'est quand même génial comme sport. Il y a de la glace. Il y a une grosse pierre. On lance la pierre, il y a des femmes de ménage qui récurent comme pas possible. Même moi, quand je déménage, je fais pas autant pour récupérer ma caution, quoi. Alors des fois, on gagne, des fois on perd, en fonction qu'on a bien nettoyé la glace ou pas. Alors bon, le mec qui a inventé ça, il est en asile psychiatrique depuis 1849, mais c'est un beau sport. Et encore, aux Jeux Olympiques, on échappe au lancer de nains, aux courses de caddie, aux chaises de bureau, de cracher de noyaux de cerise et autres concours d'ouverture d'huîtres à la fête de la morue à Cancale chaque premier dimanche du mois de mai. Mais revenons aux Jeux Olympiques qui commencent samedi, puisque vendredi c'est la cérémonie d'ouverture. Ça va être cool, cette grande fête mondiale pleine de paix et de jeux. Et puis les JO d'hiver, c'est plein de disciplines différentes, une diversité énorme. Alors il y a le ski en descente tout droit, le ski en descente où faut contourner des poteaux, le ski en descente où faut contourner des poteaux mais avec des bosses, le ski en descente où on part d'un toboggan, le mec il s'envole super haut et on attend devant notre télé qu'il y en ait un qui se casse bien la gueule comme une merde pour se marrer en espérant qu'il se fasse pas trop mal quand même, ouais hein. Le ski en descente, mais avec un seul ski plus large. Le ski sur le plat, où les mecs ils sont à deux doigts de se dévisser les épaules tellement ils poussent sur leur bateau au point qu'on se demande s'ils iraient pas plus vite en courant. Et même du ski sur le plat, où de temps en temps, les mecs, ils tirent un petit coup de carabine en essayant de viser les ours et les lapins, tu vois. Qui passent par là, pendant du temps à s'allonger pour se refroidir les couilles dans la neige. Parce que dans cette discipline, ils gagnent pas beaucoup de blé. Donc ils ont pas de sous pour s'acheter à manger, donc faut qu'ils chassent pendant l'épreuve, en fait. Ah oui, c'est beau, la diversité des Jeux Olympiques d'hiver. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même le patinage artistique pour que Philippe Candiloro puisse amener cette noble discipline dans les foyers les plus beaufs, dans la grande télé sous le canevas, sur lesquels on voit un cerf orange qui boit dans de l'eau violette sous un coucher de soleil mauve, comme il y avait chez ma grand-mère, au coin de la fausse cheminée le dimanche après-midi, après la raclette en famille, sur une toile cirée, sur laquelle étaient représentés des petits lapins tout mignons. Merci Philippe Candiloro. Et puis après les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques pour les personnes handicapées. Alors évidemment, ça passe pas l'après-midi sur France 2 et France 3, hein. Mais quand même, on a la chance d'avoir les résumés sur France O entre 3 et 4 heures du matin, c'est pas rien. Alors faut faire attention avec les Jeux Paralympiques, hein. Le judo en fauteuil roulant, par exemple, c'est ridicule. Le foot pour homme tronc, faut pas non plus, on aurait l'air malin, nous, à attendre qu'il marque des buts. Le basket pour les nains, ça doit pas être évident non plus. Puis le lancer du javelot pour manchot, pas pratique non plus. La natation synchronisée pour unijambiste, il risquerait de tourner en rond dans la piscine et mourir d'épuisement, noyé, sans jamais être parvenu à atteindre le bord. Le saut à l'élastique pour les aveugles, faut pas, ça fait trop peur aux chiens. Hein. Le tir au fusil pour non-voyants, faut éviter. Les armes aux États-Unis font assez de dégâts comme ça. Donc les Jeux paralympiques, c'est bien, ça met en valeur les personnes en situation de handicap, mais faut faire gaffe qu'il n'y ait pas de mort. On n'est pas sur le Dakar, merde. Bon, je vous avais dit qu'on parlerait pas de sport, désolé. Des fois, parler de sport, c'est quand même rigolo. Mais franchement, les Jeux Olympiques d'hiver qui commencent vendredi, pour voir du ski, des tweets de Trump, entendre Candeloro et pas réussir à faire la différence entre le Nord-Coréen qui affronte le Sud-Coréen ou le contraire, non merci, je préfère faire de la radio.
L'humour noir d'Étienne.
Et c'est Daft Punk.
Radio Primitive.
C'est quoi ce beat ?
Et oui, toujours dans Radiocratie sur Radio Primitive. Radiocratie, c'est tous les lundis de 18 à 19h. Et Radio Primitive s'écoute sur la fréquence 92.4 à Reims et via radioprimitive.fr partout dans le monde. J'ai failli rater la relance.
Et donc, tout le monde.
Et donc, c'était Daft Punk avec Robot Rock, évidemment, hein. Qu'on parlait des robots, et maintenant on va parler de l'intelligence artificielle. Alors la première question que j'ai à vous poser, est-ce que l'intelligence artificielle peut être considérée comme une nouvelle forme de vie en fait ? Célia,
ça pose la question de la conscience. Moi personnellement non, mais bon apparemment j'ai besoin de tourner Turing, c'est ça, Turing ?
Test de Turing, oui.
Turing, voilà. C'est lui qui a commencé à parler de ça. Alors, déjà dans les années 50-60. Je sais pas, je sais juste que c'est le gars qui a commencé à aborder un peu ces sujets-là, à faire des recherches là-dessus. Et lui, il introduisait, lui, une conscience.
Et dans Radiocratie, on est une équipe très complémentaire parce que Boris peut nous expliquer.
Alan Turing, c'est le créateur de ce qu'on considère comme le premier ordinateur, qui était chargé de déchiffrer,
les messages nazis, non ?
Ouais, la machine nazie, indéchiffrable, enfin jugé indéchiffrable. Oui. D'ailleurs, comme il était homosexuel, on a caché ses exploits pendant des siècles et
des années,
oui, oui, exact. Et c'est seulement l'année dernière, ou il y a deux ans, que la reine d'Angleterre a reconnu le travail de Turing.
D'accord.
Et donc, le test de Turing, c'est il avait émis que pour reconnaître qu'un ordinateur avait une conscience, il fallait qu'il puisse imiter le langage humain. Sauf que par la suite, on s'est rendu compte, actuellement d'ailleurs, qu'une imitation, c'est pas une preuve d'intelligence.
Il me semble qu'il fallait carrément qu'un mec qui parle à l'ordinateur ne puisse pas savoir s'il parlait à un humain ou à un ordinateur.
Exactement.
Et à partir du moment où t'es pas capable de faire la différence, c'est que l'ordinateur est quand même vachement fort.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il a une conscience ?
S'il est capable de rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'il est quand même capable d'ingurgiter de l'information, de jongler avec, de faire des fusions de données.
Oui, donc c'est des algorithmes super précis.
Quelque part, c'est ce que tu fais quand tu parles à quelqu'un, quoi. Donc,
une conscience, dans le sens, là, on dirait aussi des sentiments ou une morale. Est-ce que ça, on sait même pas trop, nous, comment ça fonctionne, enfin, à base d'hormones. Alors, est-ce que tous ces procédés-là biologiques, finalement, ça peut être remplacé par autre chose qui...
Je sais pas. C'est comme le téléphone quand tu vois un texto, par exemple. Si, par exemple, j'ai envoyé un texto à Séraph hier où c'était écrit pour l'émission et que j'envoie un texto à quelqu'un d'autre aujourd'hui où j'écris pour, il va me proposer émission.
Oui, il te crée ton fichier sur les mots que tu utilises le plus, voilà. Etc. Il te connaît.
Ouais. C'est ça. Et quelle responsabilité vous seriez prêt à confier à l'intelligence artificielle ? Alors, je pense à l'éducation, la politique, la sécurité. Boris, vas-y.
Faut voir l'avancement de l'intelligence artificielle. Actuellement, elle n'est capable que d'être performante dans les milieux techniques, c'est-à-dire construire une voiture, etc. Enfin, tout ce qui est le domaine de l'industrie. Pour éduquer un enfant, il faudrait que l'ordinateur y comprenne le concept de l'enfant. Et c'est très compliqué. Oui, j'ai
Benoît
vu que Séraph n'était pas d'accord.
Non, je suis pas d'accord. Quand tu parles de technique, ou alors il faut vraiment l'élargir au sens très 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 large, en fait, puisque les intelligences artificielles sont maintenant capables de reconnaître, grâce à la reconnaissance faciale par exemple sur une photo, le nombre de personnes qu'il va y avoir, si elles ont un lien de famille.
C'est ce que tu fais quand tu mets en point ton appareil photo avec les petits carrés verts sur les visages quand
par
tu
exemple
vois,
mais elles vont ça reste pouvoir de te trouver elles vont oui d'accord, mais ça n'a pas d'application technique en fait, enfin il n'y a pas d'application comme construire une voiture. On a aussi par exemple le supercalculateur médical Watson.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça?
Alors, ça, c'est
T'as le science et vie sous les yeux.
Ça, c'est un algorithme qui a été conçu, justement, pour aider dans le diagnostic médical, et il a frappé très fort, quand des oncologues se posaient la question sur une patiente qui souffrait d'une leucémie, et qui répondait très très mal au traitement, en fait. Et il n'arrivait pas du tout à trouver pourquoi, ce qui se passait exactement, en fait. Et donc, avant de commencer à éplucher toutes les maladies et tout, les cas variants, etc., ils ont tout balancé, donc, à ce supercalculateur, là, qui a été baptisé Watson, qui, lui, a fait le tri dans toutes les possibilités qui existent, par rapport aux symptômes qui étaient décrits, qui a découvert, en moins de 10 minutes, la cause de l'absence de réaction au traitement, en fait, qui a découvert que le problème n'était pas la leucémie, mais très exactement un syndrome myélodysplasique. Bon, là, je lis parce que je suis vraiment pas doué pour ce genre de choses, mais voilà, on est sur la technique, oui, mais en fait, dans toutes les applications, on va être sur la technique. Je passe sur un autre Science et Vie pour vous parler cette fois-ci de la curiosité artificielle.
Le documentaire par Séraph.
La curiosité artificielle, ouais. Là on est très très loin de la technique, parce qu'en fait ce sont des chercheurs qui ont utilisé donc l'IA la plus avancée, dont je vais vous reparler après si vous voulez.
Donc l'IA, c'est l'intelligence artificielle.
Ouais, l'intelligence artificielle qui est compilée à base de, qui est assez récente, à base de neurones artificiels. Je reviendrai là-dessus après. Pour créer, alors je dirais pas une forme de vie, mais une forme de réflexion appliquée sur des petits robots qui ressemblent un peu à des vers. Ce sont des programmes de curiosité, c'est-à-dire qu'on va placer le robot dans une pièce avec différents éléments autour de lui, et on le laisse tout seul. Mmh. Et il va explorer son environnement de lui-même. Il va apprendre à se mouvoir, apprendre à se déplacer, s'il en est capable, apprendre à interagir avec les objets. Et plus il va interagir avec ses objets, et plus il va mieux interagir avec ses objets. Par exemple, il est capable d'utiliser des outils. On a placé un de ses robots devant un joystick qui guidait un bras articulé qui lui permettait d'atteindre une balle qui était hors de portée pour ce robot-là. Et petit à petit, il a compris que le joystick faisait bouger le bras, il a compris comment le joystick faisait bouger le bras, puis il a réussi à se fixer un objectif lui-même, ce n'est pas les chercheurs qui fixent les objectifs, à se fixer un objectif de déplacer la balle à tel endroit, et il est parvenu tout seul, en fait. Et le plus important dans cette curiosité, c'est que, eh ben, il n'y a pas d'objectif de fixer. C'est-à-dire que le robot se fixe lui-même des objectifs d'apprentissage, en fait.
Donc là, c'est de l'intelligence artificielle.
C'est de la curiosité. On est même au-delà de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle permet de traiter des données pour trouver la solution à un problème.
Ouais.
C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème.
C'est presque, au final, parce que quand l'intelligence artificielle qui permet de traiter des données, c'est quelque chose de très froid, sans sentiment, etc.
C'est du calcul.
Voilà, c'est du calcul.
C'est du super cerveau dans le sens de calcul.
La curiosité, là, finalement, à ce robot, au-delà de l'intelligence artificielle, ils lui ont donné un sentiment.
Bah, on ne sait pas si c'est un sentiment, c'est peut-être un autre, mais ce qui fait peur, je trouve, c'est que là, oui, à partir du moment où le robot va être capable d'évoluer de manière autonome et selon ses propres besoins, qu'il a jugé nécessaires.
Selon ses propres objectifs.
Ouais. Là, ça fait penser, on va tomber dans Matrix, ça fait un peu flipper quand même.
On peut tomber dans Matrix ou dans Transcendance.
Après,
qui est d'ailleurs la seule utopie que je connaisse sur les robots.
Transcendance, c'est une série ?
Non, c'est un film avec Johnny Depp.
D'accord.
Alors, l'intérêt du robot, c'est qu'on peut quand même le programmer. Hein. Enfin, l'intérêt de l'IA, c'est qu'on peut quand même lui fixer des limites. Hein. Et c'est les trois lois de la robotique de Isaac Asimov, qui était
L'écrivain qui, est pour la première fois, a parlé de robots dans ses livres, et c'est le père de la robotique, et c'est lui d'ailleurs qui a donné les lois de la robotique aussi.
Les trois lois de la robotique, dont la première est un robot ne doit jamais faire de mal à un être humain, la deuxième c'est le robot doit conserver son intégrité physique au maximum, et la troisième c'est
quand un humain est en danger, se référer à la loi numéro 1.
Ouais.
Un truc dans le genre.
Mmh. Ouais, okay. Quelque chose dans ce goût-là.
Il y a la CNIL, hein, d'ailleurs, là, qui commence à avancer un peu là-dessus. Et en mi-décembre 2017, à Paris, il y a le secrétaire d'État chargé du numérique et le député chargé de mission sur l'intelligence artificielle pour le gouvernement qui ont commencé à dégager des principes fondateurs aussi. Donc, ils ont pu citer la loyauté, c'est-à-dire le fait que l'intérêt de l'utilisateur doit primer, ainsi que la vigilance. Et Ils ajoutent « L'ensemble des maillons de la chaîne algorithmique, concepteurs et utilisateurs, doivent être mobilisés. » Voilà.
D'accord. Et une dernière question avant de passer à la prochaine rubrique. Est-ce que vous seriez prêt à laisser une intelligence artificielle entrer en interface, en contact avec votre cerveau, votre mémoire aussi, par exemple, pour vous aider à prendre les meilleures décisions?
Non.
Non?
Pourquoi?
Moi, personnellement, clairement.
Vous avez 2 heures.
Moi, personnellement, clairement pas, parce que je vois ça comme quelque chose d'un peu bête et méchant. Je me dis que personnellement, j'ai mes propres limites et je vis très bien avec ces limites, que ce soit ma mémoire, que ce soit mes décisions. Et dans le cadre d'une décision, parce que c'est ce que t'as abordé, pour prendre une meilleure décision, bah, je sais pas, parce que je me dis que mes décisions, je les réfléchis. Bon, il y en a que je réfléchis pas du tout, du tout. Mais mes décisions les plus importantes et pour lesquelles je pourrais avoir besoin d'une intelligence artificielle, bah, c'est des décisions que j'ai réfléchies. Et si c'est des décisions que je regrette après, c'est des décisions que je suis amenée à assumer. Et pour moi, c'est important aussi de prendre cette décision toute seule pour les assumer après. Alors, j'ai pas envie d'une intelligence artificielle, donc moi, c'est un non catégorique. J'envisage pas du tout cette solution parce que c'est quelque chose entre moi et moi, en fait. Et je vois pas pourquoi j'améliorerais ni même ma mémoire. Enfin, si, ça peut être vachement utile, je suis d'accord, mais je considère que ça fait partie de mes limites à un moment et que...
C'est surtout que d'avoir ce système-là, après, finalement, tu vas évoluer, tu vas perdre d'autres capacités, c'est-à-dire à raisonner toi-même. Ouais. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour moi, la meilleure solution, c'est pas la plus pragmatique. Donc, en fait, ça va être la démarche de la machine. Elle va te trouver le sens logique du truc. A plus B, ok, faut faire ça. Sauf que le sens commun, pour moi, ne doit pas fonctionner comme ça et que l'intelligence humaine, ça suggère quand même d'autres compétences mises en œuvre.
Boris, très rapidement pour terminer.
L'humain est l'être le plus irrationnel au monde. Ça, c'est vrai, lui coller autant de robots qu'on veut,
il
sera toujours irrationnel.
C'est pas vrai.
Ça n'augmentera pas la qualité de la décision. Il prendra de toute façon une décision inattendue.
Non, alors, moi, je voulais juste, par contre, que Séraph, tu voulais nous parler rapidement de neurones artificiels.
Oui, alors je me suis trompé, c'est pas de neurones artificiels, en fait, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds. En fait, c'est une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui a été mise au point. Alors, le composé est un peu compliqué, donc je vais passer très rapidement dessus. En fait, on crée des neurones artificiels sous forme de couches. On va interconnecter couche par couche, et chaque neurone répond aux autres neurones. L'information passe dans un neurone et est reportée sur les autres neurones, etc. Et ça lui permet de faire un tri très très profond, et en fait, donc des calculs très rapides, diversifiés, et finalement d'arriver à une bonne conclusion. Donc, la puissance de calcul, elle est gigantesque. Le coût en énergie, il est beaucoup moins grand que ce qu'on pensait, mais c'est surtout les résultats qui sont impressionnants, parce qu'en fait, ça part du principe du deep learning, c'est-à-dire que la machine va apprendre d'elle-même, et plus elle va faire une tâche, plus elle va s'exercer à une tâche, plus mieux elle va la faire, et elle va finir par avoir ses propres raisonnements, qui sont très différents des nôtres, à tel point que les spécialistes aujourd'hui la considèrent comme une intelligence extraterrestre.
D'accord.
Extraterrestre, parce que elle raisonne pas du tout de la même manière que nous, que par exemple, pour reconnaître un lion sur une image, elle va non pas se fier au caractère morphologique de la crinière, mais des yeux. Parce que ça lui permet notamment de le distinguer d'un autre animal qui a une crinière, etc. Et c'est hyper utilisé notamment en design pour avoir des nouvelles pensées, un apport nouveau, un nouveau matériel, puisque c'est une nouvelle manière de penser, quoi. Donc ça ouvre des perspectives assez incroyables.
Très bien. Célia, rapidement, parce qu'on est très en retard.
Ouais, très rapide, juste comme on parle de prendre des décisions, et je voulais dénoncer un risque de dérive par rapport, enfin, si on s'éloigne du sens commun, justement. Et je voulais parler du programme Compass, Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanction. Wow. Donc c'est un truc, ouais, qui est lancé aux États-Unis, qui est censé prévoir la récidive chez les détenus. Donc ça pose quand même, enfin, une question énorme, quoi. Le gars, ouais, il sort de tôle, il a encore rien fait, il a rien pu prouver ni rien. Il va avoir un robot qui va lui dire non, toi tu vas récidiver, reste là. D'accord. Et le mec ne pourra rien y faire.
Voilà. En Chine, c'est carrément des programmes qui prennent la décision de juger les gens, en fait, qui donnent le verdict au juge avant que le juge applique. Okay, et c'est utilisé en France. Ouais.
On a vraiment plus le temps. Je suis désolé.
Le robot, c'est un algorithme, donc c'est programmé par des humains, donc c'est biaisé, autant biaisé
justement,
qu'un juge.
Justement, c'est.
Écoutez, on fera une émission là-dessus si vous voulez, mais on a vraiment plus le temps. On est obligé de passer à notre lecture, notre laissons les mots. Aujourd'hui par Zoé. Parole,
parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole,
parole. Et bah du coup, moi, je vais lire un extrait encore de de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme. Donc c'est l'autoroute la nuit.
Allez.
La voiture est étrange, à la fois comme une petite maison familière et comme un vaisseau sidéral. À portée de la main, des bonbons montrés glissent. Mais sur le tableau de bord, c'est pôle phosphorescent vert électrique, bleu froid, orange pâle. On n'a même pas besoin de la radio, tout à l'heure peut-être, à minuit pour les informations. C'est bon de se laisser gagner par cet espace. Bien sûr, tout semble docile, tout obéit. Le levier de vitesse, le volant, un coup d'essuie-glace, une pression légère sur le lève-vitre. Mais en même temps, l'habitacle vous mène, impose son pouvoir. Dans ce silence capitonné, de solitude, on est un peu comme dans un fauteuil de cinéma. Le film défile devant soi et semble l'essentiel. Mais l'imperceptible lévitation du corps donne la sensation d'une dépendance consentie qui compte aussi. Dehors, dans le faisceau des phares, entre le rail à droite et les buissons à gauche, c'est la même quiétude. Mais on ouvre la vitre d'un seul coup et le dehors vient gifler la demi-somnolence. C'est la vitesse crue qui ressurgit. Dehors, 120 km à l'heure, ont la densité compacte d'une bombe d'acier lancée entre deux rails. On traverse la nuit. Les panneaux espacés, Futuroscope, Poitiers Nord, Poitiers Sud, prochaine sortie, Marais Poitevin, ont des noms bien français qui sentent les leçons de géographie. Mais c'est une saveur abstraite, une réalité aveugle que l'on efface avec un vieux fond de roublardise cossarde. Cette France virtuelle que l'on abolit, un pied sur l'accélérateur, un œil sur le compteur kilométrique, c'est une leçon de plus que l'on n'apprendra pas. Cafétéria, 10 km. On va s'arrêter. Déjà on aperçoit la cathédrale de lumière, toute plate, au loin, et de plus en plus large, comme le port s'avance à la fin d'un voyage en bateau. Super plus 98. Le vent est frais, cet assentiment mécanique du bec verseur, le ronronnement du moteur. Puis la cafétéria, une épaisseur vaguement poisseuse, comme dans toutes les gares, tous les havres nocturnes. Expresso, supplément sucre. C'est l'idée du café qui compte, pas le goût. Chaleur, amertume. Quelques pagours, regard vague, quelques silhouettes croisées, mais pas de mots. Et puis le vaisseau retrouvé, la coque où l'on se moule. Le sommeil est passé, tant mieux si l'aube reste loin.
Merci Zoé. Bien.
Rien, j'entendais résonner et je voulais que tu me regardais.
Et maintenant, Julie nous a rejoint, bonsoir.
Bonsoir.
Et Boris, on passe au blind test. Non, ça c'est le jingle. C'est tous les 15 jours comme ça, Julie. Allez, attention, premier extrait, musique.
Daft Punk.
Daft Punk, Zoé.
En fait, je suis trompé, je pensais que tu mettrais pas du Daft Punk.
Au début, c'est facile. Et aérodynamique. Allez, un point pour Zoé, extrait suivant. Boris.
Madonna,
je vous dis.
American Life.
Tout à fait. American Life.
Elle est plus rapide que Shazam, quoi.
C'est clair.
Plus intelligente que les intelligences.
Oh, les deux premières étaient faciles. Attention, troisième extrait, musique.
Plus difficile. Céline Dion ?
Non.
Philippe Bartoli ?
Non.
Je sais même pas ce que je raconte.
Lara Fabian ? Oh mon dieu.
Henri Dess ?
Non.
C'est pas les Poppies, non. Non. C'est pas les enfants à la croix de bois. Tu fais tout balancer.
Non, c'est pas des. C'est...
Balance tous les enfants, ouais. L'artiste... Hashtag balance ton enfant, ouais.
L'artiste que vous cherchez, c'est pas un enfant mais des enfants.
Oh god, c'est pas Garou.
Non. C'est vrai que je ne pouvais pas trouver par la voix, mais c'est quelqu'un que vous connaissez tous.
Alain Souchon.
Non, c'est pas Souchon. On se rapproche.
C'est pas Woolsey.
Non, c'est pas les Coens.
Oh,
mon dieu.
Bah, Souchon, du coup, Woolsey.
Non.
Je vais le dire.
Non, pas ce point.
Charles Aznavour.
Non.
Il est mort.
Non, il n'est pas mort.
Non, il n'est pas mort, il est toujours en vie.
Là, on parle pas de Charles Aznavour. Enfin, il n'est pas mort non plus.
C'est Sardou.
Non, c'est pas Sardou.
Ce serait sale.
J'ai une tête à mettre du Sardou dans le blind test.
Mais c'est quoi, on cherche quoi là? On cherche les chanteurs.
On cherche l'artiste qui a écrit ça.
Ah, le compositeur.
Après, il chante, mais beaucoup plus loin dans la chanson.
Voilà, super.
Mais je vais devoir vous le dire.
Michael Jackson.
Non, c'est n'importe quoi. Il est toujours vivant. C'était Cabrel.
Ah bon,
il faudra leur dire. Eh ouais. Allez, extrait suivant, musique.
Cabrel.
C'est une chanson de Cabrel.
Marie.
Ah, c'est la petite Marie.
Non.
Je n'étais rien, il voilà que
je l'aime à mourir.
Oui, mais je demande l'interprète.
Ah.
pas Gabriel du coup.
Ah, Shakira.
Shakira,
Shakira, Shakira, je pense que c'est
vrai. T'es pas du genre à passer du Sardou, mais tu passes du Shakira.
Bah, tu vois, je suis pas fan de Shakira, mais je préfère quand même écouter Shakira. Allez, cinquième extrait, donc 2 points pour Julie. Boris.
YouTube.
Ouais.
Non. Je vais te déshériter.
Elle est dégoûtée.
Sunday Blue Sunday.
J'ai toujours un problème avec le satané bouton. Hein.
Pardon, Boris.
Toujours un problème avec ce satané bouton.
Pardon, maman.
Je crois que j'allais en place publique et puis voilà, c'est tout.
Bon, allez, là, je pense que tout le monde connaît cette chanson. Extrait suivant, musique.
Les Inconnus.
Les Inconnus, Boris.
Ah non, le piège.
Ota Inouye Passy.
Ah, c'est comme bonjour.
Premier point de Boris depuis longtemps.
Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly, dans un quartier malheur paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin, ni un euro.
Allez, attention, extrait suivant. Donc bien joué, Boris. Musique.
Enrico Macias.
Non.
Simon Garfunkel.
Simon Garfunkel, ah, Simon.
C'est la famille.
Bien joué.
C'est la famille.
Même pas fini. The Boxer de Simon & Garfunkel.
Les boxeurs ?
Non, la chanson c'est The Boxer, c'est le titre.
Il parle des slips ? Non, mais je sais pas, je demande.
Il pourrait parler du chien aussi.
Non, ça parle du sport.
Je préfère quand il parle de Coubert, avec Madame Robinson. Vachement plus sympa.
Ils ont pris ça, c'est bien. Donc bien joué Simon qui trouve Simon & Garfunkel évidemment quoi de plus logique. Extrait suivant, musique.
David Bowie.
David Bowie, Julie qui est en train de vous exploser.
Putain, j'ai le cerveau paralysé moi de toute façon. Je crois que j'ai pris de la neige tout à l'heure et elle est pas sorti. Quoi.
China Girl.
China Girl de Bowie. Alors Zoé.
Bah ouais mais bon c'est pas possible. Ah,
allez Julie 4 points. Et ouais, elle est en train de vous exploser. Extrait suivant. Alors celui-là est difficile. Boris. C'est grave là tu peux trouver. Bien dans les années 80.
Oh, comment elle s'appelle ? Oh, pff, attends, mais je suis nul, moi, avec tes dents. Non, je retrouverai pas le nom. Je vais dire des conneries à la place pour faire semblant de se croire que je...
Je vais pas faire comme d'habitude et donner les initiales.
Jeanne Moreau ?
Bah non.
Jeanne Mas ?
Non.
C'était
Bibi.
Ah, Bibi, oui, voilà, oui.
Ouais. C'est pas toi qui chante, pourtant.
Allez, extrait suivant. Musique. Toute ma jeunesse.
Ah, c'est Billy the Kick et les
Billy
gamins.
Billy the Kick, non. Zoé.
Oui, ouais. C'est mon premier CD. Enfance particulière.
Hey, souviens de ça.
Oui.
C'est vieux, hein.
Ah, oui.
Bon, Julie est morte de rire. Il passe Billy the Kick, elle est repliée. Mangez-moi. Allez, extrait suivant, musique.
Indochine.
Indochine. Voilà. Premier point, c'est...
Alors, j'ai eu un temps d'hésitation parce que je me suis dit, attends, mais pourquoi personne répond ? C'est dingue, en fait. C'est pas
non,
que je trouve pas, c'est juste que...
Si c'est pas Bob Moran, moi, je suis perdu, de toute manière. Donc,
ça, c'est les gens qui ont pas de ceinture, ça.
De la mèche.
Attention, extrait suivant. Donc, un point pour Seraph, bien joué. Musique.
John Lennon.
Non.
Non, Beatles.
Pas imagine.
Non. Non. Merde.
C'est Oasis.
Imagine. Oasis. Ah putain, le con. Oh, j'ai dit des gros.
Fais pas trop près du micro.
Don't look back in anger.
Par contre, ça commence effectivement comme Imagine, je trouve.
Ouais, c'est vrai.
Il y a un air d'acquaintance positif. Ça veut rien dire ce que j'aime bien.
Non.
C'était beau.
Au moment du blind test, c'est là où Seraph il décroche le cerveau.
J'arrête de.
Et les sciences et vie aussi.
Allez, balancez les sciences et vie.
il a balancé les sciences et vie. Alors attention, les quatre derniers sont plus difficiles. Attention, c'est du français en plus là maintenant. Boris.
Ah oui.
C'est dingue parce que je la connais, mais.
Ouais.
On la connaît tous, hein. Faut que ça chante, là, vite.
Ça arrive, ça arrive.
Oh putain,
c'est Johnny.
Non,
c'est
pas Johnny.
Non, non.
Ah, mais comment il s'appelle
Bachou,
mais... Non, c'est pas Bachou. Oh.
Gilbert Montagnier.
Ah, oh, putain, je peux pas le dire parce que.
Ah. Ah. Eddie Mitchell,
non.
Serge Lama.
Non.
Francky Vincent.
Non. N'importe quoi. Je vais m'en dire une connerie, je sais le faire.
Ah, je suis désolé.
Claude Nougaro.
Oh.
Nougayork de Nougaro. Attention, extrait suivant.
Je ne trouverai plus rien. Allez.
Je sais pas.
C'est pareil, je le sens mal pour la suite.
Boris.
Même celle que je connais, je retrouve pas. C'est dingue.
Ça, c'est vieux.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou.
C'est pas Aznavour ?
Non.
Charles Trenet ?
Non.
Léo Ferré ?
Non.
Moustaki ?
Non.
Mais vivre sans tendresse.
Putain, c'est qui ?
On ne le pourrait pas.
Je me fais passer pour des vrais. Merde, comment il s'appelle ?
Jean Ferrat ? Jacques Brel.
Non, 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 non.
On ne le pourrait pas.
Faudrait qu'il y ait Titi arrête avec ses chansons de maison de retraite.
Oh. Est-ce qu'il a un nez rouge ?
Non.
Coluche.
C'est intemporel, ça. Non.
Ah !
Intemporel, hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'intemporel, là ?
Je vais vous le dire. Hein.
Oh, bah, super.
C'était Bourvil.
Il a chanté, lui ?
Ah oui, bien sûr qu'il a chanté.
Bah, il chantait bien.
Et attention, avant-dernier extrait, c'est la même chanson. C'est pas le même interprète. Boris, tu peux trouver.
Fernandel ? Ah, Fernandel, je pense. C'est pour vite.
Des seigneurs et des princesses.
Non.
Afrique Australie.
C'est une actrice ?
Elle a peut-être joué dans quelques films, mais c'est une chanteuse.
C'est une chanteuse. Edith Piaf.
Non. Elle est pas morte.
Hélène.
Segarra.
C'est qui ça?
Non. Hélène Segarra. C'est pas Françoise Hardy.
Non, c'est pas Françoise Hardy.
Sylvie Vartan.
Non, on est dans cette génération.
Dorothée.
Sylvie revient.
N'importe quoi. Eh bien, c'était bien, j'oublie. Marie Laforêt.
Ah oui, d'accord. Voilà. Même toi, tu t'en rappelles pas.
Et donc, je vais dire, on finit en tendresse, que ces deux chansons, cette chanson-là s'appelle La tendresse. Et la dernière, Boris.
Tony Hallyday.
Je crois jamais cité dans cette
chanson. La tendresse.
Oula.
Ah ouais, bah, c'est dernière, c'est compliqué. Ah non, 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 il est pas mort.
Ouais, il devrait.
Oh, quelle horreur.
Quand il va savoir. Avec une voix comme ça.
Quand il va savoir.
C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux.
Je vais devoir vous le dire encore la dernière, encore une fois. En tout cas, c'est Julie qui a gagné le blind test. Bon, je vais commencer par vous dire qui c'était. C'était Daniel Guichard. Tu sais ce qu'a chanté mon vieux ?
Un peu du bataillon.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci.
Merci à vous, merci à toi Boris en régie, merci à Séraph, Julie qui nous a rejoint pour le blind test, Célia, Simon, Zoé. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission musicale. Tout de suite, c'est les Grégoire et toute son équipe, donc on leur laisse la place en studio. À la semaine prochaine, en attendant, portez-vous bien. Ciao.
radio primitive.
Tout ça, c'est de l'amusement touristique, de la fantaisie printanière, que c'est les génies latins, quoi.
Je t'attends, tu t'étends sur un autre sujet que moi. Je t'espère, je te perds comme un objet, un an et un mois. J'apprends que tu t'éprends d'un plus grand, d'un plus beau. Pourquoi? Je t'écoute, ça me coûte me dire combien c'est chaud dans ses bras. Je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es, pour penser qu'après moi l'herbe repoussera. Après moi je veux qu'on soit malheureux. Je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es, ni Noé ni refuge. Après moi le déluge. Après moi la pluie, sauf qui peut la vie. Je m'ébats, tu t'en bats, peut-on tomber plus bas que ça? Je te cherche, tu te perches, c'est assez de jouer à chat. Je t'appelle, tu m'épelles, et fils et hache-moi la paix. Je t'implore, tu déplores d'avoir cédé une fois. Plus jamais, je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es, pour penser qu'après moi l'herbe repoussera. Après moi je veux qu'on soit malheureux. Je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es, ni Noé ni refuge. Après moi